Avant d'attaquer plus précisément l'actualité de Lizard, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique?
Ben, j'ai commencé à la guitare en fait quand j'avais quoi 17-18 ans, des groupes de reprises et puis ensuite j'ai eu deux trois groupes avec Katie qui est donc maintenant la batteuse de Lizard. Voilà, donc j'ai fini à la basse avant Lizard. Et puis voilà, quand j'ai eu je crois que c'était 25 ans, un truc comme ça, on a rencontré Mathieu, donc chanteur guitariste de Lizard pour ce projet-là. Sinon, j'ai pas de side project en ce moment.
D'accord. C'est une histoire familiale ou qu'est-ce qui t'a fait te mettre à, donc à la guitare d'abord?
Pardon, j'ai pas compris.
Pourquoi tu t'es mis finalement donc à jeune âge à la guitare en particulier?
Ah ben quand j'étais tout petit, j'ai mes parents ils m'ont fait prendre des cours de guitare plutôt que me caler chez un babysitter en fait. Du coup quand j'étais très petit, j'ai appris les bases et puis après plus tard, j'avais plutôt envie de faire de la guitare qu'autre chose, mais j'ai aussi eu une période de batteur et puis j'ai pris la basse plus tard quoi.
Et ton passage à la basse, c'était dans la, c'était une, enfin, c'était une, dans un, c'était dans un groupe, il y avait déjà un guitariste et il fallait pas, il fallait un bassiste ou c'est une histoire plus compliquée que ça?
Ouais, c'est un peu plus compliqué. En fait, donc j'étais dans un groupe de reprise donc en tant que guitariste. Et donc le bassiste de l'époque, il voulait absolument jouer. Donc c'était un morceau de Pink Floyd, Wish You Were Here. Il voulait la faire à la guitare, mais du coup j'ai pris la basse pour ce morceau. Et la première fois que je l'ai joué sur scène, donc avec un gros système et tout, j'ai su que ce son-là, c'était ce que je voulais faire. En fait, je voulais être bassiste plutôt que guitariste.
D'accord, pourtant c'est un rôle très différent. Enfin, on a l'impression le guitariste c'est souvent celui qui est en avant, qui joue les solos, etc. Bassiste, j'exagère, hein. C'est parfois le type au fond à droite ou à gauche qu'on n'entend pas forcément tout le temps.
Ouais, voilà. Ben, il y a un mème sur Internet qui sur est-ce que les introvertis finissent tous bassistes ou est-ce que c'est la basse qui rend les gens introvertis? Ben, c'est un peu ça, quoi.
D'accord. Toujours avant d'attaquer le groupe. Donc tu joues sur une guitare C Dufour, sur une guitare custom. Tu peux nous parler un peu de ton instrument et surtout sur les customisations que tu as souhaitées?
Oui, donc moi j'ai toujours joué avant de connaître Christophe, donc de C Dufour. J'ai joué sur Lag. Donc c'est une Lag Force 5 que j'ai toujours, qui est super, sauf que il manque un petit peu de rondeur, de médium, le son wah-wee, on va dire. Du coup avec Christophe, on a essayé de concevoir donc un mélange entre la rondeur d'une Warwick avec les infrabasses d'une Lag. Donc dans le choix des bois, le choix des micros. Et donc on a fait ça sur une durée de 1 an en gros pour mettre tout ça en place, faire des essais, des prototypes. Et ce qui est bien avec lui, c'est que voilà, il prend vraiment le temps pour chaque artiste, pour comprendre ce qu'il cherche, et il n'hésite pas à faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière avant de finir sur ce que l'artiste y recherche.
D'accord. Et tu penses être arrivé au résultat final ou tu es toujours en réflexion sur qu'est-ce que tu pourrais améliorer ou changer?
Je suis assez content de ce que j'ai. Mais comme on a pas mal de morceaux qui sont sur d'autres accordages, donc j'ai 2 basses en fait, j'ai toujours ma lag qui est accordée différemment, donc j'aimerais bien faire une deuxième basse avec Christophe pour remplacer la lag sur ces morceaux-là. Et ce sera pas tout à fait le même son, ce sera un son un peu fretless, je pense.
D'accord. Et toi, en tant qu'utilisateur, comment tu vois ce mouvement à je rajoute de plus en plus de cordes. On est loin de la
Ah.
basse de 4 cordes d'origine.
Ouais.
Comment tu vois ça, toi, ce mouvement? Ça t'intéresse ou tu penses que c'est un peu un truc de tecos qui se font un peu pour plaisir?
Non, je pense la cinquième corde sur la basse, surtout en trio, dans du gros son, on va dire métal, c'est assez primordial, quoi. Donc, moi, j'étais passé sur une cinq cordes à l'époque, c'était bien avant Lizard, mais j'écoutais beaucoup Korn, par exemple, donc il y a pas mal d'infrabasses. Après, bon, Korn, je crois qu'il était en sept cordes à la guitare et accordé très très bas, donc. Pour que la basse ressorte, il faudrait qu'elle soit encore plus bas. Mais j'aime bien les sonorités à la Massive Attack, avec les gros infras. Donc, je joue sur Ashdown aussi, qui sont connus pour ouais, la reproduction des basses fréquences, quoi.
D'accord, ok. Alors, donc revenons à Lizard. Donc, comme tu disais, le groupe maintenant il a une quinzaine d'années d'existence environ. Quand vous êtes, comme tu disais, quand vous êtes rencontré à trois, enfin vous êtes formé ce Power Trio, quel était un peu le projet? Qu'est-ce que vous aviez comme idée de chemin à mener ensemble?
Bah, du coup, en fait, comme je disais, je jouais avec Kitty avant, donc on avait un groupe, on était quatre, et on faisait déjà une musique dans le même style, en fait, que Lizard, plus ou moins. Et on cherchait un chanteur, donc Mathieu a rejoint le groupe en tant que quatrième membre, et puis le guitariste est parti, et Mathieu a pris la guitare, donc on a fini en trio. Mais on s'est jamais dit qu'est-ce qu'on veut faire, comment, quel style de musique. On a toujours composé un petit peu avec carte blanche sur chaque morceau, et on voit ce qui sort et quand ça plaît à tout le monde, quoi. Donc c'est pas, on n'a jamais eu de direction prédéfinie.
D'accord. Donc là, vous avez régulièrement, pardon, enchaîné les albums, et donc l'avant-dernier, maintenant, c'était donc mi-mai 2018, vous aviez sorti Shift, le troisième. Si tu te replonges un peu dans cette période Shift, c'est-à-dire la composition, l'enregistrement, les concerts que vous avez pu donner après, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui te reste de cette période Shift?
Ben, pour cet album, on avait fait deux tournées, début 2018 et fin 2018. Et je pense que ce qui me reste en tête, ouais, c'est justement le morceau qui s'appelle Shift. Donc c'est un morceau instrumental qui est super bien reçu sur scène. Donc chaque fois qu'on arrivait au milieu du set environ, on arrivait à faire vraiment voyager et les gens et nous-mêmes sur scène, et ça durait toute la tournée, quoi. Donc comme c'est le morceau phare de l'album, on va dire, c'est ça qui je pense qui me reste en tête de cette période-là. C'était, voilà, pouvoir jouer l'album sur scène, avec en particulier une super réception sur ce morceau en particulier, ouais.
D'accord, ok. Bah, beau souvenir. Donc justement, comme tu disais, on va tout de suite l'aborder puisqu'on t'en parlait, vous avez pas mal tourné. Depuis le début du groupe, vous avez tourné avec des groupes qui ont fait également leur chemin, Gojira, Iron Fire, Pineapple Thief. Finalement, d'avoir côtoyé un peu ces types de groupes-là, qui sont parfois plus ou moins expérimentés que vous, qu'est-ce que t'en retiens? Est-ce que vous avez appris des choses au contact de ces artistes?
Je sais pas si, ouais, je pense que t'apprends tout le temps, toujours en tournée, tous les jours de toute façon, mais avec des gens, c'est surtout les, je dirais, quand on a tourné avec Adrian Belew, qui est donc le guitariste de Frank Zappa, entre autres, il a joué avec Bowie, il est là depuis très très longtemps. Pareil, Carmine Appice, on a fait quelques dates avec lui. C'est des gens qui sont là depuis même le début du rock, on va dire. Et donc eux, ils ont tellement de choses à partager, tous les jours, des histoires, et puis des tuyaux, genre sur la batterie, la basse, la guitare. Iron Fire, je me rappelle, il nous a pas mal appris sur la longueur d'une tournée qui va peut-être être de 3-4 semaines, surtout pour les chanteurs qui vont arriver à la fin de la tournée, ils ont plus de voix. Comment maîtriser ça, comment se comporter pour pas bousiller ta voix en plein milieu de la tournée, des trucs comme ça.
D'accord, ok.
Donc ouais, il y a toujours, ouais, des leçons à prendre, ouais.
Et comme tu disais, peut-être en particulier donc le Adrien Biou, parce que c'est aussi un power trio.
Oui, ça c'était une super tournée, deux trios ensemble et eux ils étaient, enfin ils sont tous les trois très comment dire, ils sont fous en fait, tous les jours ils font les cons, ils ont, enfin Adrien Belew il doit avoir plus de 70 ans mais il se comporte comme un gamin en tournée, c'est super quoi, donc c'était ambiance la fête tous les jours. Mais toujours avec un peu de retenue quand même pour pas justement que ça parte en vrille, quoi.
Pour assurer le concert suivant, ouais.
Voilà.
D'accord. Donc venons à l'actualité du groupe, donc Eroded. Finalement, comment naît un titre au sein de Lizard? Et en particulier sur cet album?
Donc Mathieu, donc le guitariste, chez lui, je pense qu'il doit jouer tous les jours, tous les jours. Il a beaucoup d'idées et ses meilleures idées, il les garde de côté et puis il nous les présente en répète, tout simplement. Donc on répète, on va jammer sur ses idées. Chacun amène sa touche. Souvent, on compose deux ou trois morceaux en même temps et quand les deux trois sont quasi finis, on passe à deux ou trois autres jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de matière pour faire l'album, quoi.
D'accord.
Et puis
Mais au moment de la répète, il arrive avec quoi? Avec quelque chose de première démo, quelque chose de structuré, juste un squelette, juste une idée, un riff, ou c'est qu'est-ce qu'il amène en fait?
il amène, c'est jamais enregistré, c'est toujours, voilà, c'est il joue des riffs, donc ça peut être un riff tout seul ou ça peut être déjà une structure de deux ou voire trois riffs, genre un couplet refrain ou une idée de squelette de morceaux. Souvent, il a déjà une vision de comment il aimerait que ça joué, genre basse batterie. Mais voilà, on n'a jamais deux fois la même structure exactement. Donc, voilà, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Des fois, il va avoir une idée, on va rebondir dessus, et puis à la fin, ça va pas ressembler du tout à l'idée de départ, par exemple.
D'accord. Mais donc ça passe par beaucoup d'essais. Vous essayez nombreux rythmes de différentes structurations ou finalement ça prend forme assez vite.
Ça dépend vraiment des morceaux, ouais. Il y en a qui pourraient être finis très très vite, genre 2 semaines. Enfin, 2 semaines, c'est-à-dire on répète 3 4 fois par semaine en général. On fait des petites sessions de quelques heures. Autant on peut avoir du mal à trouver le refrain ou le petit truc en plus qui fait que ça c'est un bon morceau. Ça, des fois on peut tourner en rond pendant quelques mois ou on laisse de côté et puis on revient dessus plus tard. Donc c'est vraiment chaque morceau est différent quoi à ce niveau-là aussi.
D'accord. Sur Eroded, il y a une dizaine de titres. Vous avez quasi finalisé uniquement ces titres-là ou vous en avez travaillé plus et vous en avez fait un tri à la fin?
Ouais, nous on n'a jamais eu le luxe d'avoir un surplus de morceaux. Et même sur Shift, le dernier morceau, enfin Gemini, c'est un des morceaux qui était pour moi, il n'était pas fini quand on l'a enregistré, mais c'est un des morceaux préférés de pas mal de gens, donc c'est pas si mal, mais on n'a jamais eu genre une vingtaine de titres pour pouvoir choisir les 10-12 qui vont le mieux ensemble. Donc voilà, ce qu'on présente, c'est voilà une période de travail sur, on va dire, 1 an de toutes les idées qu'on a eues, ben, sont là, quoi.
D'accord, donc sur Eroded, finalement, il n'y a pas de choses qui datent de Shift. Vous êtes démarré un nouveau chapitre.
Ouais, je pense pas que. Non, par contre, sur Shift, on avait pioché
Majestic.
Dans un vieux truc qu'on n'avait pas utilisé mais de bien avant, de très très longtemps.
D'accord.
Mais non, sur le nouvel album, je pense que tout a été composé, ouais, depuis après Shift.
Ok. On
Ouais.
comprend bien comment vous fonctionnez, votre manière de travailler, donc beaucoup en répète. Par contre, ça fait 1 an que ça devient compli c'est compliqué de se rencontrer. Est-ce que le contexte actuel a eu un fort impact justement sur la genèse d'Eroded?
Pas vraiment, non, parce que on a enregistré, on avait fini d'enregistrer juste avant la pandémie.
Ah, c'est bien tombé.
Ouais, voilà. Et par contre, pour le mix, ça s'est fait pendant le premier confinement. Donc,
D'accord.
chacun chez soi, le producteur était au studio. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'était de faire du live stream dont lui il envoie en temps réel ce qu'il mixe. Et on est tous sur Skype et on se voit, on s'entend parler. Et chacun écoute chez lui, quoi, sur sa chaîne Hi-Fi, donc sur un système qu'on connaît par cœur, par exemple,
Ouais, bien sûr.
ou casque. Donc, on a un point de référence, parce qu'on écoute notre musique sur ce système tout le temps. Donc, pour mixer dessus, c'était pas mal, quoi. Donc, pour le coup, c'était pas si mal pour nous.
D'accord. Et donc justement pour l'enregistrement, vous êtes allé en Allemagne, Kassel Studio, et vous avez travaillé avec Peter Junge. Pourquoi ce choix du studio et de l'ingénieur producteur?
Sur Shift, lui, il était venu à Bordeaux nous enregistrer. Donc, on a loué le studio 3 semaines, il me semble, ou 2 semaines, 2 semaines et demie. Et lui, il est reparti en Allemagne faire le mix. Et en fait, lui, il habite carrément dans ce studio, le Castle Studio. Donc, c'est un truc énorme. C'est un château converti en studio avec des apparts en dessous et dans un tout petit village isolé, avec quelques petits commerces. Donc, tu peux t'isoler pendant longtemps, t'as pas besoin de sortir, mais si tu veux sortir, t'as Dresden à une demi-heure, c'est une ville assez fascinante, quoi. Donc, c'était un bon endroit. Et du coup, plutôt que louer un studio en France et le faire venir, on a préféré carrément aller là-bas.
D'accord.
Il connaît par cœur ce studio. Pour ses repères, et puis nous, ça nous permet de sortir un petit peu de nos habitudes d'enregistrer dans le coin, quoi.
Ok. Sur les albums précédents, vous aviez aussi enfin partie fait le travail vous-même. Là, comment dire, la vision ou les conseils d'une personne extérieure, ça reste important pour vous maintenant?
D'un producteur, tu veux dire? Ouais, c'est toujours bien d'avoir au moins un avis extérieur au groupe. Des fois, nous, on arrive. Après, le fait d'être trois, c'est cool parce que tu as toujours une majorité, une minorité dans toutes les décisions. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir une oreille fraîche qui peut pointer du doigt un truc que nous, on n'aurait peut-être pas vu ou apporter une idée supplémentaire que même si on la garde pas, on peut rebondir dessus. Donc,
D'accord.
dans la créativité, c'est toujours. Après, il faut avoir un équilibre. Je pense si tu peux facilement avoir trop d'avis différents qui amènent à rien. Mais avec Peter, c'est cool parce qu'il est à peu près de la même génération que nous. Il a plus ou moins les mêmes goûts musicaux. Donc quand on se parle, on se comprend. La communication, elle fonctionne, quoi.
Quand vous êtes rentré en studio, tout était comment dire positionné au cordeau, vous vous êtes laissé une liberté sur certains titres ou certaines parties de dire bon, on verra comment on le sent sur le moment.
Là, pour le coup, tout était quasiment fini, mais on reste toujours ouvert parce que du coup, je crois qu'il y a une mélodie chant qui a bougé. Pareil, juste avant d'aller en studio, il y a un morceau, je crois que c'est Flood, où on a carrément inversé les refrains et les couplets. Donc les couplets sont devenus le refrain et vice-versa. Ça, c'était juste avant studio, donc très très tard dans le processus. Après, si on a laissé du temps là pour un peu d'expérimentation, rajout de piano ou de chœur, un peu de tout, quoi.
D'accord. Alors comme on le disait précédemment, avec Lizard, contrairement à d'autres groupes, là la basse est très... Enfin, s'entend bien. Un titre par exemple comme The Decline qui accroche assez rapidement, elle est très en avant, enfin elle est très présente. Comment justement vous trouvez cet équilibre entre les deux parties section rythmique, à la fois batterie et basse? Parce que toi, on a l'impression que la basse là, est quasiment plus en ligne mélodique qu'en ligne rythmique.
Ouais, après on n'a pas trop on n'a jamais défini de rôle lead et backing entre guitare et basse. Des fois c'est l'un qui prend le dessus sur l'autre. Mathieu il est très technique comme guitariste, Mais du coup, ça dépend vraiment de chaque partie, quoi. Donc, si Mathieu, admettons, il joue une arpège, ça laisse beaucoup de place pour faire une mélodie développée derrière. Après, on peut être en unisson ou voilà, ça dépend. On calcule pas trop, ça sort naturellement des jams, on va dire. Si ça sonne, ben on garde. Si ça sonne pas, on continue à bosser dessus, quoi.
D'accord. A priori, vu les vidéos, tu joues sans Mediator. Parfois, tu passes en Mediator ou pas du tout, jamais?
Non, jamais. Depuis que je joue de petite guitare, j'ai plus jamais utilisé de Mediator.
D'accord.
Après, j'ai testé. Il y a des morceaux où le doigté est assez rapide. Des fois, j'ai testé au Mediator, mais pour des histoires de son, pour voir si ça sonne pas mieux avec. Mais généralement, non, ça, je retourne toujours au doigt.
D'accord. Donc tu disais, ça fait donc plusieurs expériences que vous avez avec Peter Younger, et donc ça se passe bien. Est-ce que c'est très différent? Au début de votre carrière, vous aviez travaillé avec Fulber, enfin qui était un nom, enfin qui est un nom, qui est un nom reconnu, qui peut parfois être en mode producteur, et certains producteurs qui écrasent un peu enfin, qui phagocytent un peu leurs artistes. Comment vous avez vécu ces différents, enfin le travail avec ces différents producteurs?
Fulber, ouais, il a beaucoup beaucoup d'expérience avec des gros groupes, donc il a l'habitude de, on va dire, de donner son avis et d'emporter des espèces de petits, on va dire, des batailles, pas d'ego, mais des batailles d'opinion qui arrivent souvent en phase de créa, quoi. À l'époque où on bossait avec lui, nous on était enfin, on était peut-être moins sûr de nous sur ce qu'on faisait. Donc c'était bien d'avoir son avis sur chaque étape, parce que lui il était plus engagé dans les démos, la phase de création,
D'accord.
avant la phase studio, quoi. Alors que Peter, il aime bien qu'on lui envoie ce qu'on fait, mais il est plutôt, lui, c'est plutôt dans la prod qu'il aime bien apporter sa patte. Alors
D'accord.
que Riff, c'est vraiment le producteur qui risque de te dire de changer carrément une partie, ou qui va jamais, lui, de son côté, avec un clavier, pour peut-être modifier la mélodie sur tel passage. Ou après, ça, tout dépend de l'investissement qui est donné, quoi.
D'accord, mais a posteriori, l'enregistrement avec Fulber à Los Angeles, ça reste un bon souvenir?
Pardon, j'ai pas compris la fin de la phrase.
Ça reste un bon souvenir, l'enregistrement avec Fulber à Los Angeles?
Ouais, carrément, ouais. C'était vraiment bien. C'était dans son studio qui est assez petit, mais là-bas, en gros, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de matos, parce que si tu veux tester quelque chose, c'est comme se faire livrer une pizza en France. T'appelles et une demi-heure plus tard, t'as une livraison de préamp ou de micro ou de ce que
D'accord.
tu veux. Donc non, c'était vraiment cool. Et on aurait voulu peut-être faire Majestic avec lui, donc l'album Hard Reach et Shift. Mais à cette époque-là, on n'avait pas trop les moyens.
Ah oui, c'est que c'est pas donné, mais bon. C'est bien d'avoir pu le faire, surtout pour vos débuts, quoi.
Ouais, voilà.
Autre élément important d'un album, c'est le premier contact, souvent, c'est la pochette. Comment vous avez travaillé celle-là, qui est assez énigmatique? Il n'y a pas le nom du groupe, enfin, c'est très particulier. Ça fait très art moderne, ça fait très énigmatique.
Du coup, on a bossé avec Mickaël André, donc c'est le bassiste de Erin Monday à Toulouse. Donc lui, il est artiste à côté, enfin il est peintre, photographe, et touche un petit peu au graphisme aussi. Et on voulait, après c'est jamais simple, mais on voulait qu'il puisse représenter le thème de l'album en images, et donner un côté arty. En même temps, un truc joli, mais pas trop. Donc c'est abstrait, quoi, comme artwork, mais on est super content de ce qu'il a fait.
C'est
Et
magnifique.
ça, je trouve que ça reste en tête, quoi. Le jaune flashy, Une
Non,
espèce de canet.
c'est bizarre, on tourne un peu l'image dans tous les sens, mais elle est sympa. C'est original, effectivement,
Ouais.
ça change du. C'est pas commun comme pochette, quoi.
Ouais, voilà. On voulait un truc qui sorte un petit peu du lot. Souvent, dans le style qu'on fait, bah, c'est des pochettes sombres, dans les gris, les marrons. Donc, on voulait un truc flashy, mais qui reste dans le style quand même de musique, quoi.
D'accord. Pour Hérodèle, là, justement, donc vous avez signé avec Pelagic Records.
Ouais.
Ça s'est fait comment? Vous aviez des contacts déjà avec eux?
Bah, je crois que j'avais déjà eu contact avec eux sur une tournée en 2018, mais là, du coup, je crois qu'on a envoyé trois morceaux à Robin il y a bientôt un an, et ils ont accroché direct sur trois titres. Donc, c'était juste pareil, juste avant la pandémie. Qu'on a signé à cette époque-là, quoi. Donc on n'avait pas fini encore les mix, mais pareil, ils nous ont dit ouais que c'était assez frais, ça sortait un peu du lot dans ce style. Et nous, pour nous, c'était un label. Après, il n'y en a pas des masses des labels rock metal en Europe, et eux, ils faisaient toujours partie des labels qu'on avait identifiés comme potentiels. Vu que ça colle en musicalement et esthétiquement, il colle vraiment à notre groupe, quoi.
D'accord. Est-ce que la pandémie a retardé la sortie? Ça devait sortir avant et puis le calendrier était chamboulé ou pas?
Un petit peu. Après nous, on était déjà en retard par rapport à ce qu'on voulait. On avait prévu d'enregistrer plus tôt en 2019. Et on espérait sortir l'album l'été 2020. Donc on était déjà en retard avant que la pandémie arrive. Et après, c'était juste un choix entre sortir l'album en sachant qu'on pourrait pas tourner, donc ce qu'on a fait, ou attendre, mais sans savoir combien de temps on allait devoir attendre.
Ah oui,
Donc vu qu'on...
c'est le problème actuel.
Ouais, donc sans savoir et vu qu'on était déjà un petit peu en retard, enfin ces morceaux-là, on les a composés quand même pour certains mi-2018, donc presque 3 ans. On était un peu impatients de le sortir quand même.
D'accord. Ah bah oui. Ok. Vous avez sorti deux clips vidéo pour cet album pour l'instant, The Decline et Blowdown. Donc c'est des clips où on voit le groupe en train de, enfin vous trois Power Trio en train de jouer les morceaux. Sauf Blowdown, je crois, où vous avez l'air de vous être fait taper dessus avant. Enfin il y a un peu de
Ouais.
maquillage. Les vidéos. Alors, vous aviez sorti déjà des vidéos avant, mais qui étaient parfois plus scénarisées. Enfin il y avait des gros travail sur l'esthétique, etc. Les vidéos en général, c'est un exercice que tu apprécies ou c'est plus un mal nécessaire?
Non, on aime bien. Après, là, on a eu des contraintes. Par contre, que sur les Blowdown, on avait une scénario beaucoup plus développée qu'on n'a pas pu mettre en place. À cause du confinement et la distanciation et tout ça. Du coup, ouais, ça a fini en trois personnes en train de jouer, quoi. C'est quand même bien fait. On aime bien ce qu'on a fait, mais on voulait casser un petit peu justement ce truc de toujours sortir des clips où on nous voit jouer tout le long. The Decline, c'était un petit peu pareil. Du coup, on a essayé de rajouter l'écran pour faire quelque chose un peu plus développé visuellement. Par contre, le prochain qui sort dans 10 jours pour Blue Moon, là c'est plus, enfin c'est pas un scénario, mais il y a quand même une petite histoire et la plupart des images sont tournées dehors et c'est pas nous en train de jouer, quoi. Donc
D'accord, ok.
ouais.
Plus proche de ce que vous aviez à l'idée à l'origine.
Ouais, voilà, ouais.
Et donc pour terminer, parce qu'on va arriver au bout du créneau, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui viennent?
Ben, je pense que comme pour tout le monde, en fait, c'est pas mal de courage. Enfin, j'espère que tout le monde va s'en sortir. Et puis nous, on peut pas trop se plaindre par rapport à d'autres métiers. Je pense, je sais pas, aux soignants et les profs, enfin, tous les gens qui sont vraiment en train de travailler dur, quoi. Nous, on est au chaud à la maison. Mais pour le groupe, si on peut tourner à la rentrée, ce serait déjà bien. En mode public assis, masqué. Sinon, je pense que ça va être pour l'année prochaine. Et puis, nous, on va se remettre à composer, je pense, si on peut pas tourner cette année.
D'accord. Pour utiliser la rentrée, donc il y a déjà des prises de contact, il y a quelque chose où là tout est pour l'instant gelé parce que personne ne sait comment ça va, ça bouge.
Ouais, de notre côté, les 6 ou 7 dernières tournées qu'on a fait, c'était des tournées en Europe. Donc, on touchait à plus d'une dizaine de pays. Et chaque pays, en ce moment, ils ont leurs propres règles, des dates qui bougent tout le temps. Donc, c'est impossible à être sûr de pouvoir booker une tournée qui va se faire
D'accord.
sans devoir annuler ou repousser. Donc,
Ouais, vaut mieux
non, pour
attendre que ça
l'instant.
se que la situation s'éclaircisse.
Je pense que ouais, je pense qu'on va être obligé. Et vu on reste quand même un petit groupe, entre guillemets, on va pas non plus avoir la priorité sur les salles quand elles vont réouvrir. Donc peut-être qu'on va devoir se greffer en première partie de notre groupe. Donc je pense que ça va être ça ce qu'on va viser pour cette année.
D'accord, bah écoute, on vous souhaite le meilleur, on vous suivra sur le site et les réseaux sociaux. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Et merci à toi, c'est cool.
Et puis bah à très bientôt pour la suite de vos aventures.
Yes, merci, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Ciao, ciao.